Also guten Abend, ich begrüße Sie herzlich zur heutigen Diskussionsrunde. Und wie Sie sehen können, sehen wir etwas anders aus. Also heute ist Maskenpflicht angesagt, auch für uns auf der Bühne. Genau, heute Abend möchten wir uns so mit dem Thema Bilingualunterricht beschäftigen. Also Bilingualunterricht kommt in verschiedenen Formen vor und es hat schon eine lange Tradition hier in der Schweiz. Es wird von der EDIKA, der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren, ziemlich gefördert und gilt als Ergänzung zum traditionellen Fremdsprachenunterricht. Und heute möchten wir also auf verschiedene Fragen zu diesem Thema eingehen. Wie Sie alle schon gehört haben, so Sie wissen schon, denke ich, worum es geht beim Bilingualunterricht. Es geht grundsätzlich darum, ein Sachfach in einer Fremdsprache zu unterrichten. Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir hier vier Gäste eingeladen und die möchte ich jetzt gern kurz vorstellen. Also ich fange mit Ihnen an, Herr Daniel Enniger. Vous êtes professeur associé de linguistique allemande et de didactique des langues étrangères à l'Université de Genève. Et l'un de vos champs de recherche ou d'intérêt concerne le bilinguisme et notamment le bilinguisme scolaire. Donc merci d'être avec nous ce soir. Ich komme jetzt zu unseren zwei Damen hier, alors Madame Esther Coindet et Madame Carole Strel, qui nous viennent de Bienne, donc de l'entité filière bilingue primaire à Bienne. Donc vous co-dirigez, vous deux, donc cette institution, cette école. Et chacune d'entre vous représente donc une communauté linguistique, donc allemande, germanophone et francophone. Vous avez entre autres, donc avant cela, et ça fait plusieurs années maintenant que vous co-dirigez cette institution, vous étiez donc enseignante également. Merci d'être avec nous ce soir. Et aussi donc Madame Corinne Lambert, donc qui nous vient, si je puis dire, d'une institution un peu particulière, puisqu'il s'agit de l'école maternelle Scooby-Doo à Villars-sur-Glâne, donc tout proche d'ici. Et donc, si je puis dire, vous initiez en fait les tout jeunes enfants, puisqu'ils viennent du préscolaire, donc c'est le niveau préscolaire, avant l'entrée à l'école obligatoire. Donc, vous les initiez au bilinguisme, si je puis dire. Donc, merci également d'être avec nous ce soir. Genau. Und, als erstes würde ich gern Ihnen also eine Reportage vorschlagen. Diese Reportage wurde an den Neuenburger Schulen gedreht und man berichtet, wie es dort aussieht. Und genau, ich wollte das einfach damit anfangen, so zur Einstimmung auf die kommende Diskussion. Also wir sehen uns dann in 2-3 Minuten später. Und genau, bis dann.
Retour en Suisse sur les bancs d'école avec au programme de l'allemand. C'est la bête noire de beaucoup de romans. Il y a 10 ans, le canton de Neuchâtel s'est donc lancé dans un projet novateur, proposer à des écoliers de réaliser toute leur scolarité obligatoire dans des classes bilingues. Aujourd'hui, la première volée est sur le point de terminer. L'occasion de dresser le bilan. Mathieu Pliger, Miroslav Mares.
Amy et Raphaël arrivent en fin de scolarité. Ce matin, ils abordent l'histoire de la Première Guerre mondiale et ça en allemand.
Der Grabenkrieg, Erinnerungen aus dem
Pour eux, peu de problèmes de compréhension.
C'est un homme qui doit partir à la guerre et il dit quand est-ce qu'il doit partir et où est-ce qu'il va.
Ça permet d'apprendre du nouveau vocabulaire, des nouveaux mots et tout. Moi, je trouve ça assez intéressant.
Il faut dire qu'ils viennent de passer 10 années d'école obligatoire en classe bilingue. Toutes les matières leur ont été enseignées en français et en allemand. D'ailleurs, à l'occasion de leur premier pas dans ces classes, nous étions avec eux.
Je sais pas ce que ça veut dire.
Maintenant, on sait l'écrire, on sait le parler un peu, on le comprend.
Comprendre ça, je pense, on comprend bien. Parce qu'on a l'habitude qu'on nous parle en allemand et tout. Mais que ce soit, par exemple, l'écrit ou le parler, on n'est pas totalement bilingue.
853 élèves sont intégrés dans ces classes, soit aujourd'hui 5% de l'effectif. Un chiffre qui va tripler ces 15 prochaines années. Selon une étude, les élèves de ces classes ont une année d'avance en allemand ainsi qu'en anglais. Ils ont aussi un meilleur taux de réussite en mathématiques.
On a aussi constaté qu'il y avait de la reformulation au niveau des enseignants. Donc on voit qu'il y aura plusieurs explications qui ont été données, du temps qui est pris aussi pour que qu'on puisse vérifier que les consignes soient bien comprises avant qu'un élève se mette au travail.
Bonne papa, bravo.
Neuchâtel reste le seul canton monolingue à proposer cet enseignement dans l'ensemble de ses cercles scolaires. Faute d'enseignants bilingues, à Cressier, on s'y est mis que cette année. Ça, grâce à Noémie Biache, cette jeune enseignante vient de terminer sa formation pédagogique en bilingue.
Au-delà de ça, on en a même entendu parler avec des trilingues, donc avec du français, de l'allemand et de l'anglais. Donc je pense qu'on va vers une société où les langues sont de plus importantes.
Quant à Amy et Raphaël, ils vont suivre la filière académique, même si Amy ne fera pas sa maturité en bilingue, puisqu'elle a besoin de faire une pause avec l'allemand.
Genau. Donc justement, pour débuter cette discussion, je voulais reprendre cette conclusion, en tout cas cette remarque du reporter donc à propos de cette jeune fille donc, qui nous dit voilà, elle fait toute sa scolarité obligatoire en baignant dans cet environnement bilingue, et puis donc elle décide apparemment de faire une pause avec l'allemand. Donc d'où ma question à vous intervenants, donc qu'est-ce que cela nous dit finalement sur l'enseignement bilingue? C'est un bon signe? Est-ce qu'il faut s'attendre à de telles réactions? Alors je commencerai peut-être avec une de vous deux, Madame Coindet ou Madame Strel, puisque vous venez du terrain, si je puis dire.
Oui, alors c'est clair que des enfants qui ont fait chez nous, ils passent 8 ans, et puis après il y a 3 ans au secondaire, ça peut être astreignant parce que ça demande une grande motivation, ça demande un effort supplémentaire. En tout cas, le résultat de cet effort, on le constate vers le secondaire plutôt qu'en primaire, cet investissement. Mais pour nous, ce n'est pas du tout un signal négatif, je dirais. J'ai aussi entendu des jeunes qui, après leur secondaire 1, disaient, ou secondaire 2 plutôt, « j'aimerais bien faire une pause pour faire un voyage », etc. Donc je l'entendais un peu plutôt dans ce sens-là. Mais indéniablement, c'est vrai qu'au départ, ça peut amener une certaine frustration parce qu'on doit apprendre dans les deux langues, on doit apprendre à écrire dans les deux langues, un vocabulaire dans les deux langues, etc., etc. Donc oui.
Die Chance, dass vom Kindergarten her bis zum Gymnasium alles zweisprachig, dass man alles zweisprachig machen kann. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Kinder von der Filière Bilingue, die auch nachher in der Sekundarschule in die Filière Bilingue gehen, Filière Bilingue Sekundar, dass sehr viele ins Bilingue Gymnasium gehen. Also dass wirklich die bewusst das wählen, das zweisprachige Gymnasium und keine Pause brauchen. Aber es gibt auch andere Kinder, die bewusst ein einsprachiges Gymnasium wählen oder eben eine Lehrstelle natürlich oder eine andere Schule nur auf eine Sprache besuchen.
Peut-être si je peux rajouter aussi, les élèves qui sont sortis du secondaire et qui sont entrés dans un apprentissage ont eu le bonheur ou la joie d'être très rapidement pris, engagés à cause du bilinguisme. Donc cette récompense, elle vient peut-être tard, elle vient après 11 ans, 10, 11 ans.
Mm-hmm. Oui, merci. Et puis, Monsieur Almiguer, qu'est-ce que vous pensez de...
Je pense que ça montre surtout que ce n'est pas elle qui a choisi, mais plutôt ses parents. Et puis que maintenant, elle a le choix. Et puis elle ne semble pas avoir souffert de cette filière. Mais elle dit, voilà, j'aimerais maintenant peut-être prendre une autre filière dans l'école qu'elle suit, autre que celle que d'autres ont choisi pour elle. Mais je pense aussi que les bénéfices qu'elle a eus, elle continue de les avoir pendant un bon moment.
Oui, merci. Puis Madame Lambert, vous, comment vous voyez ça? Peut-être aussi avec en faisant votre public. Est-ce que vous avez des jeunes enfants qui vous disent déjà je veux plus ou j'aimerais une petite pause?
Non, alors malheureusement, heureusement pour nous, pas du tout. Ils sont tout contents. Ils en redemandent toujours. Moi, je pense plutôt que c'est plutôt aussi dû peut-être à l'âge ou à un moment donné à cet âge-là, on est un petit peu moins motivé et puis c'est certaines périodes de notre cursus scolaire. Je pense pas qu'on peut imputer ça plutôt au bilinguisme, mais c'est plutôt à l'adolescence où voilà quoi, on aimerait aussi passer à autre chose et puis un peu moins peut-être nous investir dans nos études quoi.
Très bien, merci. Donc j'enchaîne. Donc on aimerait se poser aussi la question. Donc on sait que les filières bilingues sous leurs diverses formes existent depuis plusieurs décennies maintenant en Suisse. Et puis ben, la question, c'est on aimerait un peu savoir comment se présentent-elles donc en Suisse de manière générale, mais aussi dans votre institution. Donc qu'est-ce qui, de quoi est-ce qu'elles ont l'air? Donc là, je donnerai la parole pour commencer à Monsieur Elmiger.
Souvent, c'est un peu compliqué parce que d'abord, pour savoir, pour faire un inventaire, il faudrait déjà savoir ce qu'on entend par enseignement bilingue. Il y a différentes terminologies, on parle d'enseignement bilingue, d'immersif ou autre. Parfois, on entend la même chose par ces termes différents, parfois pas. Il faut, pour des projets comme ceux que nous menons, définir ce qu'on entend par qu'est-ce qu'on entend par un enseignement bilingue. Donc pour nous, il faut une certaine régularité, aussi un certain minimum que nous avons un peu arbitrairement fixé à 10% de l'enseignement qui est donné dans une autre langue, ce qui exclut tout de suite des formes émergentes et très intéressantes d'initiation à l'autre langue, qui peuvent être sous forme d'îlot immersif ou sous d'autres formes, mais ce qui exclut de l'autre côté aussi des formes d'enseignement qui sont uniquement ou exclusivement donné dans une autre langue, comme souvent les écoles privées qui font tout en anglais ou parfois aussi tout dans une autre langue nationale, mais ça c'est plutôt rare en Suisse. Ensuite, il y a énormément de formes différentes. Il n'y a que peu de filières où il y a des règles plus ou moins claires, comme dans les filières gymnasiales, où il y a plus ou moins deux modèles majoritaires qui sont donnés par la Conférence suisse de maturité et où on peut aussi comparer plus facilement les filières entre elles, ce qui est à la fois une force et une faiblesse. Je crois que pour ce niveau-là, il vaut peut-être mieux avoir une certaine comparabilité des filières, alors que c'est peut-être la liberté dont ont bénéficié d'autres écoles. Et puis là, je pense à tous les niveaux, entre le préscolaire jusqu'aux études universitaires et au-delà. C'est cette liberté qui a permis l'émergence de centaines d'offres en Suisse, mais qui sont globalement très mal connues.
Okay, très bien. Et peut-être chez vous, Madame Lambert, comment se présente l'enseignement bilingue?
Alors chez nous, c'est effectivement, on a deux enseignantes, donc une enseignante de langue maternelle allemande et une enseignante de langue maternelle française. Et puis c'est bien réparti, donc c'est 50-50. Les enfants, ils viennent le lundi matin en français avec une enseignante francophone et le jeudi après-midi avec une enseignante germanophone. L'enseignante germanophone est parfaitement bilingue. Mais pour les enfants, ils n'ont jamais dit « mais pourquoi tu nous parles en allemand ?» Pour eux, c'est normal que le jeudi après-midi, c'est en langue allemande. On n'a jamais eu aucun préjugé par rapport à des enfants qui disent « je veux pas aller jeudi parce que c'est en allemand » ou « je veux pas aller lundi parce que c'est en français ». Donc, ils ont vraiment la différence, c'est chaque demi-jour à sa maîtresse et sa langue. Et puis, on a aussi beaucoup fait par rapport aux couleurs. Le violet, c'est pour la langue allemande. Le rose, c'est pour la langue française. On a fait beaucoup de repères aussi dans les écritures, ce qu'on note aussi sur les tableaux, comme ça. Comme ça, ils voient, par exemple, en allemand, il y a énormément de H et de K. En français, on en a beaucoup moins, même s'ils ne savent pas lire. Hein, on est en préscolaire, là, maintenant. Et c'est pour qu'ils puissent repérer aussi les différences par rapport aux deux langues.
Très bien, voilà. Merci. Et puis donc, je me tourne maintenant vers l'entité filière bilingue de Bienne.
Ja, die Filière bilingue in Biel ist eine zweisprachige öffentliche Schule, die sich am deutschsprachigen Lehrplan, also am Lehrplan 21 und dem französischen Lehrplan PECH, orientiert. Wir haben etwa 350 Kinder und 45 Lehrpersonen. Alle Kinder erhalten den Unterricht zu 50% auf Deutsch, zu 50% auf Französisch Mathematik ist zweisprachig auch unterrichtet. Jede Lehrperson hat ihre Sprache, das ist ähnlich wie bei Ihnen. Und zwar gibt es immer eine deutsche Lehrperson und eine französische Lehrperson. Und was ganz besonders ist in Biel und ein Vorteil, den wir haben die Kinder, die Deutsch sprechen zu Hause, die Kinder, die Französisch sprechen zu Hause und natürlich viele Kinder, die andere Sprachen sprechen noch zu Hause, die werden gemischt bei uns in Klassen. Und das merken wir, das ist ein großer Vorteil, weil die Kinder unter sich die Sprachen lernen dann auch. Und wir vermischen nicht nur die Sprachen, sondern auch die Kulturen von deutschsprachigen und französischsprachigen. Wir auch, wir sind zu zweit als französischsprachige und deutschsprachige Schulleitung unterwegs. Und diese beiden Kulturen zu mischen, da geht es wirklich weit im Bilinguisme. Bei uns, die Sitzungen sind alle zweisprachig, alle Kommunikationen mit den Eltern werden übersetzt, Deutsch und Französisch, also ist wirklich alles zweisprachig.
Dass diese Programme hier eigentlich relativ typisch sind für die Programme an der Sprachgrenze, wo es einerseits einige Formen gibt, die eben reziprok sind, wo es nicht quasi eine Basissprache gibt und dann eine Zielsprache, die weit weg ist, sondern die beiden Sprachen sind nahe oder eben wie in Biel gerade wirklich im Ort vorhanden und können dann auch geübt werden. Und auf der anderen Seite sind eben dann die Klassen auch gemischt. Also es gibt dann nicht so eine deutschsprachige Klasse, die dann das alles auf Französisch macht, aber das Französische bleibt irgendwie in der Schule auch eine spezielle Sache, sondern eben viele Kinder sind in der jeweils anderen Sprache auch zu Hause. Und da gibt es sicher hier in der Sprachgrenze viel mehr Möglichkeiten, dass diese Sprachen auch geübt werden und dann auch in ganz verschiedenen Situationen gesprochen werden. Und je weiter man weggeht jetzt von der Sprachgrenze, jetzt mal abgesehen von Graubünden, wo es natürlich andere Sprachgrenzen gibt und auch andere Konfigurationen, da kommen natürlich viel weniger auch die Landessprachen zu diesen Programmen. Und da ist natürlich das Englische sehr viel häufiger als eben jetzt in der Nähe, wo man es auch besser sieht, dass die Landessprachen wichtig sind für das Verständnis auf regionaler und auch auf nationaler Ebene.
Mhm. Vielen Dank. Genau, ich möchte jetzt zur nächsten Frage kommen, und zwar die Bedingungen für eine optimale, wenn ich das so sagen kann, optimale Implementierung des bilingualen Unterrichts. Genau, j'ai ici donc, j'avais vu dans un des articles, en fait c'était sur le site de la DIX, donc au Grand Canton de Fribourg, le CO, le cycle d'orientation de Mora, essaie depuis des années d'intégrer une formation bilingue pour ses élèves. Et puis, donc, ça date un petit peu, il s'agit de 2019, mais sauf erreur, ça n'est toujours pas le cas. Et puis, on voit que dans certains établissements, dans certains lieux, c'est tout à fait possible. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les conditions nécessaires pour réussir finalement à implémenter un enseignement bilingue? Donc je pose la question de manière générale, mais ça peut être de la part des établissements, des étudiants et des élèves, mais aussi peut-être du point de vue des enseignants. Donc je reviens vers vous peut-être du côté de Bienne.
On a la chance d'habiter dans une ville et dans un canton bilingue, mais surtout dans une ville bilingue qui n'est pas tout à fait à 50-50, mais on s'y approche. Les francophones ont une part, sont un petit peu inférieurs à la part, 45% de la population, quelque chose comme ça. Donc on a ce bassin de population qui est à très grand avantage pour le recrutement des enseignants également, puisqu'on a une PH et une HEP dans le même canton. Donc on peut aussi avoir ce bassin de recrutement des enseignants, ce qui nous permet de justement pouvoir travailler cette immersion réciproque, non seulement entre élèves, mais aussi avec les enseignants, les adultes. Donc ça, je pense que c'est quelque chose de primordial et qui est... Enfin, on peut pas. C'est une chance chez nous, hein. On peut pas le créer dans certains cantons. Vous voyez Neuchâtel, c'est quand même un canton romand. Voilà. Et puis ensuite de ça, on pense beaucoup que c'est très, très important de travailler sur la motivation des enseignants. C'est quand même une. On postule à des endroits parce qu'on a une certaine motivation. Donc c'est clair qu'il faut aller avec la motivation des enseignants. On a bien sûr le soutien des autorités qui est important parce que ça demande quand même une mise en place un peu spéciale, des conditions un petit peu spéciales, je ne sais pas si on en reviendra. Le soutien des parents, c'est quand même chez nous en tout cas c'est une école publique qui fait partie de l'enseignement public. Les enfants, on a un premier critère de sélection, si on peut dire, c'est le critère géographique. Donc, il concerne en tout premier le bassin de population qui habite proche de l'école. Mais après, c'est clair que les parents doivent signifier leur accord. Donc, ils ne sont pas obligés, parce qu'ils habitent à 50 mètres de l'école, de subir une filière bilingue, si on peut dire ça. Mais c'est plutôt l'inverse chez nous, il y a une très grande demande des parents. Donc, voilà un petit peu des critères, je ne sais pas si...
Bis jetzt haben wir noch nicht groß profitiert davon, was aber wichtig ist, dass im Kanton Bern jetzt neu eine zweisprachige Lehrerausbildung seit 2 Jahren existiert, denke ich, das dritte Jahr jetzt existiert. Und wir haben auch von dort immer Praktikantinnen und Praktikanten und ich denke, das hilft nachher auch viel dazu, dass wir die Qualität nachher auch steigern können, vom Unterricht her. Unsere Lehrpersonen haben alle einen CAS Plurilinguisme, Mehrsprachigkeit besucht und wir machen immer ständig Weiterbildungen dazu. Ich denke, das ist wichtig. Die Lehrpersonen müssen auch wissen, wie man die Sprachen unterrichtet und wie man Kinder unterrichtet, die die Sprachen nicht verstehen.
Mm-hmm. Bien, peut-être Monsieur Niguer, comment vous...
Je crois que mes collègues ont déjà dit un nombre important de choses importantes. Moi, j'ajouterais peut-être 2 éléments, c'est-à-dire qu'il faut bien planifier une filière dans la durée, parce que ce n'est pas juste pendant une année qu'on fait quelque chose, ce n'est pas dans une seule classe en général qu'on le fait ou une seule année, mais surtout, si on commence tôt, il faut suivre, il faut assurer et garantir que le projet puisse continuer. Et puis ça, c'est vraiment important, et on tend peut-être à le négliger, parce que ça peut avoir des effets auxquels on n'a pas pensé d'abord. Je pense à l'évaluation de la filière Prima, donc, dont on a vu l'extrait. J'ai pu travailler dans cette évaluation les 2 premières années. Et puis là, typiquement, il fallait non seulement trouver des enseignantes pour chaque année supplémentaire, donc pour chaque année supplémentaire, pour chaque année, il fallait trouver des enseignantes nouvelles, mais il fallait aussi penser à des solutions pour celles qui ne pouvaient pas enseigner en bilingue. Et puis ça, pour éviter qu'il y ait du mauvais sang ou qu'il y ait une schlechte Stimmung par rapport à ça, il faut bien penser à cela avant, mais aussi à beaucoup d'autres éléments organisationnels qui sont les moyens d'enseignement, qui sont les plans d'études et bien d'autres choses. Et l'autre élément, c'est peut-être il faut être bien clair par rapport à l'interne, mais aussi à l'externe, par rapport aux modalités d'accès. Donc là, il y a en gros des modèles qui sont ouverts à tout le monde, où on encourage en tout cas que chaque élève ou chaque parent d'élève puisse être inscrit sans précondition, et puis d'autres qui ont des modalités d'accès qui sont souvent des critères de sélection. Donc souvent dans les écoles secondaires ou secondaire 2, il y a des critères de sélection, ce qu'on peut faire, hein, ce qui est tout à fait admis, mais ce qui n'est pas anodin, parce que ça peut créer des classes où sont présumés être les bons élèves, les meilleurs élèves, et puis qui manqueraient par la suite dans d'autres classes. Je crois qu'on peut le faire, mais il faut que ce soit réfléchi et clairement assumé aussi par les écoles pour qu'on puisse ensuite savoir où on en est.
Mm-hmm. Très bien. Et Madame Lambert, quelle est la recette, votre recette pour pouvoir implémenter ce bilinguisme dans votre établissement?
Alors moi, je pense qu'il ne faut pas mettre trop de critères non plus. Je connais pas bien le projet de Mora, mais c'est clair que s'ils veulent avoir une parité 50-50, ça va être compliqué à Mora. 50% de francophones, 50% de germanophones. Je pense qu'à un moment donné, si on veut aller de l'avant, il faut se lancer. On a tous des projets, et puis que si on n'essaye pas de se lancer, ça va pas, mais il faut aussi que les parents ils soient partenaires de l'école, il faut qu'ils soient motivés, il faut qu'ils aiment la langue allemande, parce que nous, on a aussi eu des parents qui disent « on le met chez vous, on déteste l'allemand, mais on aimerait bien que notre enfant il apprenne l'allemand », ben, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir partager cette langue avec les enfants. Et puis je pense aussi, en tout cas dans le canton de Fribourg, ce qui est assez problématique aussi, c'est que on a toujours ce problème entre le bon allemand et le suisse allemand, quoi. Alors certains disent voilà, chez nous on fait du bon allemand parce qu'on pense que c'est une langue un peu plus européenne, et puis que si on sait bon allemand, tout le monde va pouvoir nous comprendre. Et après, ça c'était un choix de notre école, mais avec les Suisses allemands, on parle en suisse allemand, on va pas dire que on veut pas entendre le suisse allemand, mais en général on fait l'enseignement en bon allemand, quoi. Moi, je pense que c'est aussi une motivation des parents, quand même, quoi. Et puis, aussi politique, quoi, ça c'est sûr, quoi. Et puis, ne mettre pas trop de critères, quoi. Parce que plus on met de critères, ben, plus on met de barrières, concrètement, quoi. Si on veut la parité, ça va être compliqué, quoi. Surtout avec maintenant tous les enfants qui arrivent, des allophones et tout ça. On a un grand mélange en Suisse. Et puis, il faut faire avec ça. Sans ça, on n'avancera pas, quoi.
Sehr wichtig, dass wir unser Hauptkriterium, die Distanz haben zu unserem Schulhaus und eben nicht ein Sprachkriterium. Das heißt, die Kinder werden nur mit dem Kriterium Distanz zum Schulhaus ausgewählt. Nachher haben wir natürlich 9 allophone Kinder, also 9 anderssprachige Kinder, 6 deutschsprachige Kinder und 6 französischsprachige Kinder pro Klasse, damit die Mischung stimmt. Aber das ist wirklich nicht ein Vorteil, zum Beispiel, wenn man bilingue ist. Es wird nicht geschaut, ob die Eltern bildungsnahe sind oder nicht. Und wir möchten eben vermeiden, dass unsere Schule wie elitär wird durch das. Das Einzige, was bei uns gemacht werden muss, ist bei der Einschreibung für den Kindergarten das Kreuz, dass man der viele bilingue interessiert ist. Aber sonst ist es wirklich, wir haben von allen kulturellen Hintergründen her Kinder. Und das ist uns sehr wichtig, dass wir die Realität widerspiegeln von Biel. Und nicht zu einer elitären Schule werden. Und nicht die starken Kinder, wie vorher erwähnt wurde, von anderen Klassen oder Schulen nehmen, sondern eben ja, ein bisschen die Realität widerspiegeln und dadurch auch aufzeigen können, dass gerade anderssprachige Kinder extrem gute Fortschritte machen in beiden Sprachen. Wir hatten ein bisschen Angst um diese Kinder, weil die ja schon eine andere Sprache zu Hause sprechen und manchmal noch 2 andere Sprachen zu Hause sprechen. Und die sind super. Also die machen sehr gute Fortschritte und um die müssen wir uns keine Angst machen. Hingegen die ja manchmal ein bisschen schwieriger sind dort, wo die Eltern nicht motiviert sind. Also dort, wo die Eltern nicht machen und eben sagen, ja, pour moi le français, non pas du tout. Oder eben das Deutsch nicht. Und das ist, dort wird es ein bisschen schwieriger. Aber wir haben eigentlich wenig Kinder, wo es nicht funktioniert. Und wir versuchen einfach, die Eltern mitzunehmen. Und das gelingt uns nicht immer, aber oftmals schon. Und vielleicht auch noch ein Vorteil von der Filiert-Bilingue ist es noch, in Biel, wo wir so viele anderssprachige Kinder haben, wir merken, dass bei unserer Schule die Integration von diesen verschiedenen Kulturen sehr gut funktioniert. Und zwar sind im Kindergarten alle Kinder im gleichen Boot, alle müssen eine Sprache lernen. Und das verbindet. Durch das, dass kein Kind einfach beide Sprachen perfekt kann, oder sehr selten, wir haben schon zwischendurch 2-sprachige Kinder, aber sonst nicht, merken wir, das ist ein Riesenvorteil, die vermischen sich untereinander und lernen die Sprache eben auch dann mit den anderen Kindern und in der Pause.
Si je peux rebondir, ça soutient aussi les parents quand on les encourage à entrer dans la deuxième langue. C'est-à-dire, ben, on a beaucoup d'enfants allophones qui doivent faire aussi, qui doivent entrer dans ces langues. Tout le monde est un peu en stratégie d'apprentissage, enseignant aussi. Donc, on est un petit peu dans cette culture-là et petit à petit, ça s'installe et ça donne aussi un signal aussi aux parents pour s'intégrer. Mais on a aussi des parents qui n'ont pas envie. Comme l'a dit ma collègue, quoi, qui n'entre pas dans la langue, mais qui espère le meilleur pour leur enfant. Mais ça, c'est dans d'autres domaines aussi. On a des parents aussi qui espèrent le meilleur pour leur enfant, puis qui ne s'investissent pas. Donc, ce n'est pas propre à la langue.
Très bien. Merci. Donc, pour continuer, on l'a vu aussi dans le reportage, bon, ça a été mentionné, donc, comment se répercutent finalement ces diverses formes d'enseignement bilingue. Si on parle des compétences des apprenants, des compétences linguistiques. Donc ici, j'ai fait une petite liste que j'ai retrouvée dans la littérature. On atteste beaucoup d'effets positifs, notamment sur les compétences linguistiques des apprenants. Le reportage disait, en tout cas dans les écoles de Neuchâtel, que certains avaient jusqu'à une année d'avance par rapport à ceux qui ne suivaient pas une filière bilingue. Et donc, voilà, je voulais vous poser la question. Est-ce que vous constatez, ou ça a déjà été un petit peu... on en a parlé un tout petit peu. Est-ce que ces effets positifs sur les compétences linguistiques des apprenants sont manifestes aussi, se manifestent aussi chez vous, ou est-ce que c'est ce qu'on constate aussi de manière générale, en tout cas en Suisse? Et si oui, dans quelles compétences? Et peut-être est-ce qu'il y a d'autres effets positifs à noter? Donc je reviens vers vous, monsieur Elmiger.
De manière générale, c'est assez difficile de savoir quel résultat donne l'apprentissage à l'école. Donc si on veut regarder de manière scientifique quels sont les bénéfices d'un autre type d'apprentissage, c'est pas anodin, c'est pas facile à faire. Nous avons la possibilité de mener actuellement un projet de recherche où nous regardons toutes les recherches qui ont été faites au niveau suisse et parfois aussi à l'étranger par rapport à toutes ces questions. Donc, quel est l'avantage au niveau langagier, au niveau des matières enseignées dans une autre langue. Et nous sommes en pleine récolte encore des données que je connais en partie parce que je les avais lues dans d'autres contextes. Et il est clair qu'au niveau langagier, il y a un avantage à avoir une exposition réelle à l'autre langue pendant des dizaines d'heures supplémentaires ou peut-être des centaines d'heures par rapport à d'autres enfants. Donc ça, c'est clair, il serait vraiment très difficile à comprendre pourquoi il n'y aurait pas un avantage à être dans une filière bilingue. Ça, c'est absolument clair. En revanche, nous avons aussi vu dans un projet sur la maturité bilingue que ces élèves qui avaient choisi de suivre la filière était déjà meilleur au début. Donc il faut aussi tenir compte de cela, mais il est absolument clair que c'est bénéfique. Et puis comme ce n'est pas un enseignement ou un apprentissage qui est basé sur, comme c'est encore le cas souvent, sur un apprentissage majoritairement centré autour de la grammaire, ça donne un peu... Un apprentissage qui est plus libre, ça c'est clair. Pour ce qui est des matières apprises dans une autre langue, c'est très difficile de savoir comment on mesure cela. Nous n'avons que rarement ce qui est nécessaire pour le faire, c'est-à-dire un modèle de compétences. Et là, il y a beaucoup moins de recherches dans ce sens. Une thèse récente a montré que c'est bénéfique pour les mathématiques aussi. Ça, c'était aussi à Bienne, si, sauf erreur. Et sinon, nous n'avons pas encore pu regarder toutes ces recherches pour vraiment faire l'ensemble, pour mesurer dans l'ensemble des travaux quels sont les apports en matière d'apprentissage. Mais en général, on peut quand même dire que les attitudes sont meilleures, que l'ouverture est meilleure. Et ça, c'est déjà des bénéfices. Je crois que chaque personne qui viendra parler après moi pourra aussi dire qu'il y a un apprentissage de la langue, mais aussi des matières qui est plus libre et plus aisé que dans nos cours de français ou d'allemand, où c'est souvent un peu difficile, disons.
Non. Madame Lambert.
Alors, moi, je trouve aussi que d'apprendre une langue dès le plus jeune âge, ça donne un esprit d'ouverture, en tout cas une très grande curiosité par rapport aux autres cultures. J'ai beaucoup de parents qui m'ont dit « Ah, ben, on est parti en Allemagne, on a vu que notre enfant, il avait envie de justement communiquer dans la place de jeu avec ses autres petits copains et tout, même si ça avait des fois pas quelques mots, au lieu de les dire, il les disait en français, mais avec la phonétique allemande. » Donc, on voit quand même que les enfants, ils ont cette soif d'apprendre quand même, et puis que c'est vraiment dès le plus jeune âge qu'on peut utiliser cette motivation qu'ils ont, parce qu'ils n'ont pas des a priori, ils sont spontanés, quoi, cette spontanéité qu'on devrait beaucoup plus partager pour que chaque enfant il puisse découvrir les autres cultures. Moi, j'ai remarqué aussi que dès qu'on a un enfant qui arrive d'un autre pays, eh ben, dans les classes bilingues, il est beaucoup plus vite intégré que dans une classe allophone, parce qu'il y a déjà des autres langues, quoi. Donc il y a déjà cette curiosité des autres enfants qui sont différents, quoi. Voilà un peu.
D'accord, bien, merci. Et puis, je sais pas, Madame Strel, Madame Coindet.
Nous, on constate que quand on arrive en septième année et qu'on aborde l'anglais, il y a une très grande facilité, une très grande aisance, ils avancent vite, parce qu'il y a justement déjà ces stratégies d'apprentissage de la langue qui sont en place. Ça, c'est indéniable pour l'anglais. Pour les maths, on a eu justement aussi, on a lu la même étude, hein, le doctorat qui a été fait en partie aussi à Bienne. On est en train de le constater, c'est vrai, parce que depuis une année et demie maintenant, on peut enseigner les maths dans les deux langues. Donc, on va répéter un peu les mêmes termes dans l'autre langue, on va répéter la manière de faire dans une langue et dans l'autre. Donc, ça donne aussi un petit peu plus de pratique et puis de théorie. Je dirais que nos enfants sont très bons à l'oral. À l'écrit, ils sont pas forcément, ils sont pas en tête de liste. Je dirais, on a même tendance à dire que si un enfant doit quitter la filière bilingue pour rejoindre une classe monolingue parce qu'il déménage, etc., ça va être peut-être plus difficile parce que le rythme sera peut-être plus rapide en monolingue. Tandis que quand on est en bilingue, on a tendance à reformuler, à utiliser d'autres manières que l'oral pour expliquer les choses. On est très visuel, enfin, etc. On développe plusieurs stratégies d'apprentissage différentes qu'on devrait, à notre sens, hein, utiliser aussi. Peut-être que les étudiants qui sont là le savent déjà, mais utiliser dans toute forme d'enseignement monolingue ou pas. Mais disons que nous, on a été obligés d'utiliser cette forme d'enseignement, d'élargir notre manière d'enseigner, et ça, c'est un plus chez nous. Alors voilà, en résumé, oui, quand il s'agit d'apprendre une autre langue, les maths, on est en train d'effectivement de réaliser que cette plasticité du cerveau, on découvre un petit peu au niveau du cerveau tout ce qui se passe. Le fait de passer d'une langue à l'autre très fréquemment donne aussi cette aisance de passer, apparemment, oui, pour les maths, et puis peut-être plus tard aussi dans secondaire 2, quand il s'agit des branches scientifiques, certainement aussi.
Wir werden von der HEP Bejun und von der PH Bern begleitet, weil wir ein Pilotprojekt sind und da werden Tests durchgeführt und das wird überprüft. Und dort haben wir sehr gut abgeschnitten. Mathematik waren wir gleich gut wie alle anderen. Und dann aber in der Zweitsprache ist es klar, das ist ein Riesenunterschied. Also bei uns in der Filière Bilingue, ein deutschsprachiges Kind, nach 2 Jahren Kindergarten versteht es Französisch. Kann man mit ihm Französisch sprechen? Problemlos. Und dort startet es nachher langsam zu sprechen. Wir haben auch, oder Gesänge werden vorher schon gemacht, Lieder. Aber einfach, das Niveau ist viel höher als in den anderen einsprachigen Schulen, von der Zweitsprache. Das merkt man einen Riesenunterschied. Und jetzt auch die Kinder, die von der FIBIS, von Filière Bilingue Secondaire, gegangen sind und auch Lehrstellen gesucht haben. In Biel ist es wichtig, beide Sprachen zu kennen. Und die haben wirklich durch den Bilinguismus oder eben die Zweisprachigkeit konnten sie nachher Plätze finden. Vor allem auch Kinder, wo wir nicht sicher waren, ob sie einen Platz finden würden. Und das ging gut, eben wegen den Sprachen. Und wir denken, wir merken bei den Kindern, dass sie sehr offen sind. Sie sprechen beide Sprachen durcheinander manchmal auch. Sie genieren sich nicht, so wie wir uns vielleicht genieren manchmal. Sie sprechen einfach drauf los. Und das ist ein Riesenvorteil.
De deux, trois, enfin, un peu plus, quelques élèves qui ont rejoint le gymnase bilingue après la FIBIS secondaire, donc bilingue aussi, et qui s'ennuient un petit peu. Il faut dire que le gymnase bilingue accueille des enfants issus des filières monolingues. Donc voilà, je pense que c'est une réflexion chez eux aussi pour savoir comment avancer. Donc effectivement, il y a quand même un niveau en fin de cursus obligatoire. Ils sont quand même meilleurs dans les deux langues.
Noch was hinzufügen kann, vielleicht sind manchmal die Erwartungen zu übertrieben von Eltern oder von anderen Leuten. Ich habe auch schon neulich gehört von einem Onkel, von einem Kind in der Neuenburger Prima-Projekte, aber das Kind ist ja gar nicht zweisprachig. Und wenn man danach fragt, was verstehst du denn unter Zweisprachigkeit, dann sind dann manchmal so maximale Erwartungen da, eben dass man schriftlich und mündlich, rezeptiv wie produktiv einfach alles kann und ohne Zögern und einfach quasi, wie man manchmal sagt, perfekt zweisprachig ist. Und das sind natürlich nur die wenigsten Leute, wahrscheinlich sitzen da im Publikum einige davon, aber das sind ja meistens, sind diese Repertoires nicht ganz ausgeglichen und das ist einfach in den Köpfen der Leute nicht da. Also wenn das Kind nach 2-3 Jahren immer noch nicht spricht, sondern einfach gut versteht, dann ist das wenig gut verständlich für Eltern und die sind dann manchmal skeptisch, weil einfach diese Kompetenzen noch nicht so da sind, wie man sie manchmal fälschlicherweise erwartet.
Vielen Dank. Wir haben also gerade über die Vorteile oder die genau, die positiven Effekte auf die, unter anderem auf die sprachlichen Kompetenzen gesprochen. Und jetzt möchte ich vielleicht über eine, sage ich mal so, negativere Seite des Bilingualunterrichts, also zumindest was auch untersucht wird oder erwähnt, das kann man auch manchmal der Literatur entnehmen. Und nämlich, das sind die diese Selektionseffekte, Fettselektion. Hier ist es ein Beispiel, das ist eine deutsche Studie, die in Gymnasium, an Gymnasium durchgeführt wurde. Und genau, die haben verschiedene Selektionseffekte festgestellt. Und daher meine Frage, also auf der einen Seite sieht man also das Potenzial des Bilingualunterrichts, was es den Lernenden bringen kann. Und auf der anderen Seite ist es auch immer mehr, würde ich sogar sagen, immer mehr die von Chancengleichheiten die Rede. Und daher meine Frage, also wir als Unterstützer des Bilingualunterrichts, wie reagiert man auf diese Effekte? Also was sagt man dazu? Ich fange vielleicht mit Ihnen.
Wegen den Chancengleichheiten. Also ich denke jetzt gerade, wir geben eben gerade Chancengleichheit gerade anderssprachigen Kindern, weil sie eben Deutsch und Französisch lernen können. Also für mich ist das eigentlich kein Widerspruch, sondern durch das, dass wir eben das ja eröffnen und eben gerade als Kriterium nicht die Sprache haben, als Aufnahmekriterium, sondern dass wir eben gerade anderen Kindern die Chance auch geben, dann denke ich, da machen wir viel zu Chancengleichheit, weil das sind oftmals Kinder, die nachher keine Lehrstelle finden würden in Biel. Und denen ermöglichen wir das durch diese Zweisprachigkeit. Mhm.
Peut-être aussi aux filières qui sont plus loin de cette situation, qui a beaucoup plus de compréhension pour l'autre langue, comme c'est le cas ici, comme c'est le cas dans les cantons bilingues voisins. Et je crois que c'est peut-être on ne veut pas éviter que parfois on essaye de commencer avec une configuration plutôt idéale où tout le monde est motivé, où on s'assure aussi que les élèves ne soient peut-être pas prétérités par les conditions de l'enseignement bilingue, mais où il y a donc de ce fait une certaine sélection, mais il faudrait veiller à moyen terme de reconsidérer les conditions pour l'ouvrir ces filières à un plus grand nombre et puis peut-être avec moins de sélection. Parce qu'il est clair que ce ne sont pas des filières qui sont d'office prévues pour les bonnes élèves, les bons élèves. En principe, tout le monde peut y aller, mais peut-être pour lancer une filière, c'est plus simple de le faire avec en se donnant un peu les meilleurs atouts, en ayant aussi l'aval des parents et tout. Mais quand les conditions ne sont pas données, on voit aussi l'abandon de certaines filières. Il y a eu pas mal de filières par le passé qui ont dû être abandonnées, faute de moyens, faute de motivation, faute de soutien aussi des autorités. Et puis là, je crois que c'est souvent beaucoup de frustration qui est générée quand l'enthousiasme ne paye pas à moyen terme.
Notre supérieur aime bien dire quand on présente la filière au futur éventuel élève, donc au futur parent palpable, il aime bien dire qu'au sortir de la filière bilingue, il faut oublier le modèle de Goethe ou de Voltaire. On n'aura pas des élèves extrêmement bons en littérature, parce que c'est vrai que leur premier apprentissage, c'est se focaliser sur l'apprentissage des deux langues. Donc à l'écrit, ils sauront se débrouiller, mais ils seront pas extrêmement... Enfin, du côté francophone, on a l'Académie française, etc. Il faut pas imaginer cela. Et pour certains parents qui ont un cursus peut-être académique et qui ont vécu aussi dans des cantons ou dans une scolarité où on poussait beaucoup ce côté littéraire, enfin, nous, comment je l'ai vécu aussi dans la scolarité, il faut oublier cela. Et puis, on trouve qu'en disant cela, on pose déjà une base. On leur dit, mais on aimerait que ce soit ouvert au maximum d'enfants, en particulier en premier lieu, pas forcément pour les enfants qui vont avoir un cursus universitaire, mais en tout premier, pour ces enfants-là, on l'a dit, qui, en fin de scolarité obligatoire, ont de la peine à trouver une place d'apprentissage. Et on sait que, dans notre société actuelle, les langues sont primordiales, surtout à l'oral. Hein. Donc, on aime bien le redire. N'empêche qu'on a toujours des parents qui arrivent à l'école enfantine et qui imaginent déjà un cursus, mais ça, c'est le côté parental. On a tous... plusieurs parents, pas ici, et peut-être on a ce souci-là. Mais c'est vrai que c'est important de dire, ces filières, attention, il y a un investissement dans les langues, mais il faudra peut-être imaginer qu'on ne pourra pas pousser si loin. Ou alors un enfant très bon pourra, au secondaire 2, rattraper, si on peut dire, au niveau littéraire, on va dire. Donc, pour nous, c'est en tout cas important. Donc, c'est un bilinguisme à la biennoise, on va dire. Mais une ouverture plurilingue, et puis peut-être que c'est aussi quelque chose de mondial, hein. On est peut-être plus focalisé sur une langue à fond, mais on doit s'imaginer de pouvoir switcher, passer d'une langue à une autre. On aime bien dire qu'on a une langue professionnelle, une langue privée, une langue scolaire, etc. On a plusieurs langues, hein, maintenant, de plus en plus dans le milieu professionnel, donc on aime bien appuyer là-dessus aussi.
Entschuldigung, wir haben vor zwei Jahren das Konzept angepasst auch. Unter anderem haben wir die Klassendurchmischung angepasst. Vorhin waren es immer 7 anderssprachige Kinder, 7 deutschsprachige, 7 französischsprachige Kinder. Und jetzt haben wir 9 anderssprachige Kinder, 6 deutschsprachige und 6 französischsprachige Kinder. Einfach um uns ein bisschen der Bieler Bevölkerung anzupassen und auch zu zeigen, wir möchten eigentlich eine normale Schule sein, die wir überall machen könnten, eventuell verdoppeln könnten in Biel. Wir könnten im Moment die vielleicht Biel ein dreifach füllen. Wir haben eine sehr große Nachfrage in Biel für diese Schule. Also wir haben eine Warteliste. Aber für uns ist wichtig, dass wir eine normale Schule sind wie alle anderen und dass man nachher nicht diesen elitären Touch hat, sondern dass wir zeigen können, ja, wir können das auch mit ganz normalen Kindern machen. Und wir sind auf dem Weg dorthin, denke ich, und hoffen eigentlich auch, dass es nachher im nächsten Jahr, wenn wir wieder überprüft werden, dass es sich auch aufzeigt, dass wir wirklich Kinder aus verschiedensten Backgrounds haben.
Ich gebe noch die Parole, Madame Lambert.
Aussi dire justement qu'on devrait pouvoir offrir ce bilinguisme à tous les enfants, même les enfants qui ne vont justement pas faire des études, mais qu'ils aient au moins 2 langues, donc déjà un bon départ dans leur avenir professionnel, parce qu'on n'a pas que des étudiants qui suivent la scolarité. Et puis j'aimerais relever aussi que les enfants allophones reçoivent dès leur plus jeune âge cette éducation bilingue, donc pas par choix, hein, parce qu'ils ont changé de pays, par devoir, mais ils s'en sortent très bien. Et puis, je trouve qu'on devrait offrir justement aux alémaniques et aux francophones cette éducation bilingue afin qu'ils aient les mêmes chances que les allophones dans le marché du travail. Parce que maintenant, si vous ne savez pas 2 langues, vous êtes déjà, votre dossier va déjà à droite. Hein. Il ne va pas dans la feuille. Je pense que c'est très important. Puis on oublie aussi ça. Parce que les enfants allophones, ils apprennent très tôt une deuxième langue. Et puis, ils ont beaucoup plus de facilité après pour communiquer dans les autres langues. Quoi. Et on oublie souvent que dans le marché du travail, il faut être maintenant minimum bilingue. Quoi. Alors, voilà.
Oui, merci. J'ajouterais peut-être encore une question pour rebondir. Est-ce que du côté des, qu'est-ce qu'on pourrait faire alors concrètement? Alors je pense qu'on est parti un peu sur la piste des peut-être d'essayer de c'est un peu une piste de généralisation, tendre à une généralisation ou en tout cas à moins de critères de sélection des étudiants. Mais est-ce que les autorités peut-être ont un rôle à jouer là-dedans? Daniel Emiger, je pose la question.
Sicher. Bisher waren das eher so einzelne Keime, wenn ich so sagen darf, so einzelne Schulen, einzelne auch sehr verdienstvolle Personen, die das gefördert haben, einzelne Institutionen wie die APEPS in der Schweiz. Ich glaube, das Bewusstsein für die Vorzüge und vielleicht auch die Schwierigkeiten von zweisprachigem Unterricht sind noch nicht wirklich überall da. Also es gibt ganz, ganz viele Schulen, die das machen, die das auch als Promotionsinstrument machen. Eben kommen Sie zu uns und you'll be bilingual am Ende der Schule.
Die EDK selber weiß eigentlich nicht, was es alles gibt in der Schweiz. Eben, wir sind an einem Projekt, wo wir 400 Lehrgänge angefragt haben. Was gibt's denn? Der Rücklauf ist nicht wirklich berauschend, aber das liegt auch daran, dass wir nicht überall wissen, ob es diese Lehrgänge auch noch gibt, ob die aktuell sind. Und von daher denke ich, dass ein größeres Bewusstsein da sein müsste, was es schon gibt und wohin die Reise gehen soll. Ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt hier an der Sprachgrenze das Verständnis dafür da ist, dass auch die Landessprachen gefördert werden sollen, da ist. Aber je weiter man weggeht, dass man dann denkt, ja, jetzt eigentlich ist ja schon gut und nett, dass wir auch noch Schweizer Sprachen haben, aber machen wir mal zuerst Englisch und dann haben wir auch die Lehrpersonen, die schon Englisch können. Da habe ich eine gewisse Befürchtung, dass es in eine Richtung geht, die vielleicht nicht alle wirklich wollen.
Ja, danke. Ich weiß nicht, ob Sie etwas hinzufügen möchten dazu.
Sind in Biel werden wir sehr unterstützt von der Politik. Die Nachfrage ist riesig. Also es ist auch ein Label der Stadt Biel, die zweisprachige Stadt im Seeland. Und es gibt extrem viele Projekte. Also wir sind jetzt ein großes zweisprachiges Projekt in Biel, aber alle Tagesschulen sind zweisprachig. Oftmals auch Krippen sind zweisprachig und auch Schulen, die nur deutschsprachig sind, die haben immer Kontakt mit französischsprachigen Schulen, gehen ins Skilager zum Beispiel zusammen mit einer anderen Klasse. Also es wird sehr gefördert. Wir fühlen uns sehr unterstützt, auch vom Kanton, von den beiden Inspektoraten werden wir unterstützt. Also wir haben das Gefühl, das wird immer wie grösser. Das wird wirklich gefördert bei uns.
Les autorités soient avec nous. Je vois Madame Christine Lepape dans la salle qui était au tout début de la filière bilingue. Et quand on a commencé, on était un petit peu des extrémistes. Hein on nous regardait et c'était très important du côté du politique de pouvoir soutenir le projet, aussi vis-à-vis de nos autres collègues enseignants en direction. Parce que finalement, on regardait, on se demandait si ça allait fonctionner, si c'était trop élitaire ou alors trop dangereux, qu'on allait beaucoup trop demander aux enseignants, etc. Donc il y avait forcément un petit peu cette méfiance qui était là vis-à-vis du changement. Et pour nous, c'était très important de sentir aussi ce politique derrière qui a dit non, maintenant il y a une ligne politique. Alors c'est sûr que, voilà, après il faut pouvoir l'appliquer, mais qui est derrière et qui continue, comme l'a dit ma collègue, les projets. On a une filière bilingue, mais aussi dans les autres écoles, les petits projets bilingues sont sont souhaités, sont demandés, sont mis en place aussi. Et petit à petit, les mentalités changent aussi.
Je pense que c'est aussi beaucoup politique, effectivement. Et puis, je pense qu'il ne faut pas imposer ce bilinguisme à tout le monde. Mais en tout cas, je trouve dans le canton de Fribourg, on devrait pouvoir l'offrir. Je sais qu'il y a des parents qui habitent dans des villages où malheureusement, ils ne peuvent pas mettre leurs enfants à l'école en allemand parce que c'est que des classes françaises. On devrait leur donner la possibilité de s'ils sont d'accord de faire les trajets et tout ça, d'immerger leurs enfants en classe bilingue à Fribourg, quoi. Je trouve que c'est effectivement politique et puis c'est toujours un petit peu en dents de scie, quoi. C'est la politique qui décide au bout du compte. Il faut aussi que les enseignants, on ne doit pas leur imposer ça. Il faut trouver des enseignants motivés, qui sont intéressés par les projets et tout, parce que sans ça, ça ne va jamais aller de l'avant, quoi. Alors voilà.
Voilà, donc je vous propose maintenant de parler peut-être... on parle donc d'enseignement bilingue, donc on a toujours... deux langues, en tout cas concernées, mais on est aussi dans un... on vise des objectifs, en tout cas nos autorités en domaine d'éducation, on est de plus en plus, on tend vers un plurilinguisme et pas seulement un bilinguisme. Et donc, en parlant de plurilinguisme, donc, est-ce qu'il ne faudrait pas avoir peut-être à moyen ou à long terme finalement des écoles trilingues? Est-ce que ce serait, donc, par exemple, un tiers, si on parle de... pour que ça soit réciproque, donc un tiers dans une langue, la langue 1, un autre tiers dans une autre langue nationale et un tiers en anglais. Est-ce que ce serait finalement le but? je vous donne la parole.
Bien sûr, c'est un but. Un objectif que l'école se donne déjà. Elle dit, voilà, nous faisons deux langues étrangères dès le primaire. Et parfois, c'est affolant de voir quels sont les résultats au bout de 8 ans, 9 ans, 10 ans d'apprentissage d'une autre langue. Parfois, je trouve que c'est minable. Donc, si on peut faire des choses plus intéressantes, je donne pas la faute à qui que ce soit, parce que je constate juste que parfois, je suis expert aux maturités, que parfois, c'est les gens ne sont tout à fait incapables d'avoir une conversation simple dans la langue étrangère. Et ça, c'est un mensonge collectif qu'on tolère dans notre pays, qui est peut-être moins visible dans des villes comme Bienne, qui ferait vraiment énormément de choses pour les langues. Je connais assez bien le terrain de Bienne, et c'est toujours là qu'on voit, voilà, que les gens parlent l'autre langue parce qu'elle est présente et tout. Mais au niveau suisse, on a un discours scolaire qui dit, voilà, nous faisons bien nos devoirs parce que nous avons un modèle pour tous les cantons qui prévoit dès le primaire l'apprentissage de deux langues. Et puis, idéalement, il faudrait le faire sous forme d'enseignement bilingue, parce que là, on fait des choses autres que d'apprendre scolairement les langues, parce qu'on fait des choses, on fait, voilà, des activités, on fait les maths, on fait aussi le sport dans d'autres langues. À mon avis, il faudrait prévoir un modèle qui prévoit peut-être une première langue comme langue immersive dès l'école obligatoire, et puis ensuite une deuxième langue qui s'ajoute au niveau secondaire 2. Je pense que ça pourrait être un objectif qui serait réaliste pour tout le pays, mais qui, ou peut-être de manière pratique, ne peut pas fonctionner si on l'impose, mais qui est peut-être plutôt un projet d'émulation à partir de projets où je pense peut-être plutôt à celui de Neuchâtel, parce qu'il est dans un canton monolingue, et où d'autres cantons monolingues pourraient aussi s'inspirer de manière plus concrète, parce qu'ils disent, ben, on n'est pas bien, on peut pas faire comme bien, mais on peut quand même essayer de faire comme Neuchâtel.
Madame Ambert.
Je vois tout à fait ce que dit le professeur. Effectivement, je pense que ce serait bien d'apprendre déjà une première langue, en sachant que, en tout cas chez nous, dans le canton de Fribourg et à Villars-sur-Glanouget, on a pratiquement maintenant le 80% de la structure qui a déjà une autre langue, donc ça leur fait déjà trois langues. Et puis qu'après, à partir du secondaire, ou comme ça, leur donner la possibilité d'apprendre une troisième langue, j'irai encore un petit peu plus loin en leur laissant le choix de la langue. Pour autant, entre les langues germaniques ou bien latines, il y en a qui préfèrent l'italien que l'anglais, voilà. Quoi. Mais ça, c'est mon avis personnel.
Ouvert au plurilinguisme, ça c'est clair, hein, pas seulement le bilinguisme. Pratiquement, je pense que dans les classes primaires, c'est un petit peu difficile. Maintenant, si on constate chez nous, en tout cas, les enfants ont déjà des bonnes stratégies pour passer d'une langue 1 à la langue 2, je pense qu'encore plus, on le voit avec l'anglais, ils arrivent à passer facilement en langue 3. Pourquoi pas imaginer, avec les moyens actuels informatiques qu'on a, de pouvoir aussi travailler, puis si on n'a pas la personne de langue native sur place, peut-être pouvoir faire des échanges. J'imagine au secondaire 1, ça se fait aussi, avec des cours qui se font tout d'un coup en anglais. Je pense que de manière spontanée, ça doit déjà se vivre dans certains cours, à mon sens, en histoire ou dans ces branches-là, des échanges, ou bien avec un artiste, par exemple, dans une langue. Effectivement, alors réfléchir, comme vous le dites, madame, aussi à d'autres langues, à choix, pas seulement l'anglais, mais peut-être partir sur l'espagnol, enfin, offrir peut-être une plus large population cette ouverture aux langues, et pas seulement quand on est au gymnase, enfin, au secondaire 2, hein, je ne sais pas, dans d'autres cantons, on appelle ça autrement que le gymnase, mais c'est vrai que de ce qu'on connaît maintenant, c'est surtout à partir du secondaire 2 qu'on peut choisir une troisième ou une quatrième langue. Donc peut-être revenir plus tôt, ça c'est clair. Maintenant, pratiquement... voilà, mais je pense qu'il y a des gens qui ont des idées géniales, et puis il faut être ouvert, il faut être vraiment ouvert à ça. Ouais.
Auch, man muss einfach offen sein dafür, aber für die Organisation jetzt bei uns wäre es momentan nicht möglich. Wir haben schon zwei Lehrpersonen an jeder Klasse, mindestens eine deutschsprachige und eine französischsprachige Lehrperson im Kindergarten oder in der ersten Klasse. Dort noch eine englischsprachige Lehrperson dazu zu tun, das würde wahrscheinlich viel machen. Und auch für das Spracherlernen, wir haben jetzt 10 Lektionen Sprache, wir sagen nicht mehr Deutsch oder Französisch, sondern Sprache. Das müsste wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dazu kommen. Wir mussten jetzt schon einige musische Fächer streichen und das dafür bei Angeboten der Schule zusätzliche Angebote dann noch nachholen. Ich denke, es ist schwierig umsetzbar jetzt für uns.
Okay, vielen Dank. Und vielleicht noch eine Frage, das wurde bereits von Ihnen, Herrn Elmiger, angetönt. Sie haben gesagt, ja, dass manchmal ist es, also wundert man sich, also dass zum Beispiel ein Schüler nach 8 bis 9 Jahren noch kaum ein Gespräch führen kann. Also daher meine Frage, lohnt es sich überhaupt noch, so traditionell Fremdsprachen traditionell zu unterrichten? Ist das, sind bilinguale Lehrgänge einfach nicht die Lösung vielleicht? Warum unterrichten wir immer noch Fremdsprachen so? Ich provoziere ein bisschen vielleicht, aber ja.
Ja, wir haben einfach nicht genügend Personen, die zweisprachig unterrichten können, das ist ganz klar. Da braucht es jetzt mehr und mehr Angebote wie an den PHs, eben Bechün oder Bern, die dann eben auch Personen ausbilden können. Ich wurde gerade letzte Woche angefragt für die Konzeption eines Ausbildungsgangs an der Uni Genf, wo ich unterrichte. Da bin ich voll dafür. Ich frage mich dann, ob es dann wirklich viele Leute gibt, die das Deutsche haben oder das Italienische haben als Landessprachen, um das auch unterrichten zu können. Eben weil wir dann eben für Sport oder für Geschichte oder Geografie ausbilden und die dann eben in einer anderen Sprache unterrichten könnten. Da sind wahrscheinlich faktisch gesehen in Genf sehr viel mehr Leute auf Englisch in der Lage, das zu machen. Aber es ist ganz klar, das bisherige Modell wird noch lange weiterlaufen. Es gibt eben ganz unterschiedliche Resultate, es gibt super Resultate und dann eben teilweise eben solche, wo ich mich frage, wo sind denn die ganzen Jahre geblieben? Aber das ist eine andere Frage, ich glaube, die kann man nicht einfach beantworten, indem man sagt, wir stellen das Modell ab und wir ersetzen es durch ein anderes, wenn dieses andere Modell nicht wirklich schon konkret da ist und wenn es nicht auch gewünscht wird von den Lehrpersonen, von den Schulen, von den Eltern und von der Gesellschaft.
Vielleicht wollen Sie was dazu hinzufügen oder wäre das für Sie vorstellbar, so einfach mit dem alten Modell, also das alte Modell abzuschaffen, einfach von Anfang an mit einem bilingualen Lehrgang Fremdsprachen zu unterrichten?
Also ich denke einfach, die Umsetzung muss man sich überlegen, ob es möglich ist. Also schon nur die Durchmischung eben von den Schulkindern und nachher die interessierten Lehrpersonen und die fähigen Lehrpersonen, die wirklich auf Deutsch und Französisch unterrichten können, das wäre jetzt in Bielen nicht so ein Problem, aber die Leute müssen offen sein, auch für die andere Kultur, nicht nur die Sprache, das macht auch etwas aus. Die Umsetzung, denke ich, ist wirklich schwierig, aber vor allem in einsprachigen Kantonen, also dort Lehrpersonen zu finden, die Immersion übernehmen, das wird wahrscheinlich sehr schwierig sein. Aber sinnvoll, wir sind sicher, dass es sinnvoll ist, umso mehr, dass man das Natürliche lernt. Also einfach nicht in diesen einzelnen Lektionen, sondern dass wir sehen das bei den Kindern auf dem Pausenplatz, in den Pausen, im Unterricht spontan. Und das ist viel fruchtbarer, wie wir jetzt bemerken, jedenfalls für den Spracherwerb, als diese künstlichen Situationen. Aber diese künstlichen Situationen sind sicher besser als nichts. Und das andere ist wahrscheinlich einfach schwierig machbar. Ja.
Gut. Also ich glaube, wir sind eigentlich ziemlich so weit. Also wir hatten noch Zeit für Fragen, zum Beispiel aus dem Publikum, wenn sich da jemand melden möchte oder Fragen hat.
Danke. Ja, es ist für mich sehr erfreulich zu hören, wie sich diese Filia Bilang entwickelt hat über die Jahre. Und ich habe zwei Fragen dazu. Es wurde gesagt, dass die Nachfrage ja viel größer ist als das Angebot. Und wenn ich es richtig berechne, sind jetzt im Moment 22 Klassen in der FIBI oder FIBIS. 16 in der Also in
Bilingue 16, genau, und nachher noch die FIBIS, die Oberstufe, genau nach 16, ja. Entschuldigung. Ja.
Und also 5, warum, ja, warum ist es nicht möglich, diese FIBI zu erweitern, wenn doch die Nachfrage so groß ist? Wahrscheinlich geht es auch um die Lehrkräfte, die dann fehlen, aber ich möchte gerne wissen, warum es jetzt ausgerechnet in Biel nicht möglich sein soll, nachdem ja diese FIBI so erfolgreich ist. Und dann habe ich noch eine zweite Frage, und zwar geht es da um Mundart und Standardsprache. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das Modell in der FIBI in den ersten 2 Jahren nur Mundart zu sprechen, also nicht radikal, aber hauptsächlich. Und ist das immer noch so jetzt? Und was hat man für Erfahrungen gemacht mit der Mundart- und der Standardsprache in Bezug auf Schwierigkeiten bei den frankophonen Lernenden?
Tu réponds à la première question?
Alors, le développement de la filière bilingue à Vienne, c'est politique hein, aussi. Donc, avant tout, c'est cela. Il y a des. Voilà, c'est politique. Donc, on est dans un quartier. L'idée est peut-être de développer dans d'autres quartiers. Avant tout, c'est la première, je dirais, la première raison de trouver du personnel enseignant. Je pense qu'on pourrait trouver. C'est une deuxième question qui viendrait après. Donc, c'est un petit peu la raison. Il faut dire aussi que politique est des fois un petit peu frileux parce qu'on a beaucoup d'allophones et beaucoup d'autres situations difficiles. Mais c'est une question qui est ouverte. Et puis maintenant, ils réfléchissent à des modèles. Donc, on a dit le bilinguisme. Donc, voilà, il se développe par les EJC, les écoles à journée continue, dans les différentes offres sportives aussi que l'école propose, qui sont bilingues. Et puis, voilà, nous, on a fait aussi certaines propositions. Mais je dirais que le frein, mais c'est aussi l'argent derrière, parce qu'on coûte un tout petit peu plus, pas tellement, parce que finalement, on est une école comme les autres. Mais ma collègue l'a dit quand même, quand on est 2 enseignants dans la même classe, il faut aussi, voilà, il y a un petit, on ressent un tout petit peu, enfin pendant pas longtemps, mais en tout cas pour la mise en place de la filière, le canton doit payer un petit peu plus parce qu'il faut plus de ressources. On a aussi peu de ressources, on n'en a pas parlé, de moyens d'enseignement. Donc actuellement, c'est nous qui travaillons, enfin les enseignants surtout, avec les moyens de l'Airplan et du PER, et puis qui parfois combinent les choses. Donc il n'y a pas encore énormément de richesse au niveau des moyens d'enseignement bilingue français-allemand. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en route. On sait que les cantons aussi se retrouvent, et on a en tout cas des enseignants qui travaillent au niveau cantonal, le roman, pour développer ses moyens. Donc, c'est en route. Donc, il n'y a pas une fermeture, mais ça prend du temps. D'ailleurs, je crois que, voilà, tu l'as aussi vu, jusqu'à ce que la filière bilingue démarre en 2010, il y a eu beaucoup de choses avant. Donc, voilà, ça, c'est une lenteur. Je crois qu'il faut qu'on fasse affaire. Die zweite Frage, vielleicht kannst du das...
Also, es ist im Kindergarten, wird sowohl Hochdeutsch gesprochen als auch Schweizerdeutsch. Es ist so, dass wir das ganz bewusst machen. Also, alle Lehrpersonen mussten sich überlegen, wie sie das Schweizerdeutsch einsetzen, auf Stufe vom Kindergarten. Nachher in der Primarstufe ist es nur noch Hochdeutsch. Und dort haben wir uns entschieden, dass wir in den Kreissequenzen zum Beispiel... auf Hochdeutsch sprechen und dann in den Spielsequenzen mehr auf Schweizerdeutsch und einfach immer bewusst einsetzen. Natürlich haben wir auch schweizerdeutsche Lieder und so weiter. Also wir versuchen beides zu fördern. Wir haben bemerkt, dass die Kinder eigentlich beides lernen, das natürlich auch vermischen. Sie machen da nicht immer einen Unterschied. Und bei den französischsprachigen Kindern, die Deutsch lernen und zu Hause nur Französisch sprechen, dort bemerken wir, dass die mehr Schwierigkeiten haben als die Deutschsprachigen, die Französisch lernen. Weil es einfach trotzdem 2 Sprachen sind. Also ein Pferd ist ein Ross und solche Sachen. Es hat einfach viele Unterschiede von Hochdeutschen und Schweizerdeutschen. Und da bemerken wir, dass einige Kinder wirklich länger brauchen, weil sie halt 2 Sprachen lernen. Aber eigentlich funktioniert es recht gut. Ich kann jetzt nicht sagen, was die Kinder am Schluss von der Filière Bilingue Primar besser sprechen, ob Hochdeutsch oder Schweizerdeutsch. Ich denke, im Mündlichen, im Sprechen wahrscheinlich eher Hochdeutsch, im Zuhören kein Problem Schweizerdeutsch. Natürlich auch mit den anderssprachigen Kindern spricht man oftmals Hochdeutsch. Also meine Kinder, wenn sie Schweizerdeutsch, also in einer deutschsprachigen Schule sind, dann sprechen sie mit anderen Kindern oftmals nicht mehr Schweizerdeutsch, sondern Hochdeutsch, weil das die anderen Kinder auch besser verstehen. Also ich denke, auch Kinder untereinander sprechen eben heutzutage sehr viel Hochdeutsch.
Et plutôt l'allemand standard.
On parle effectivement bon allemand, et puis mais avec les Suisses allemands, on parle en suisse allemand. Et si nous, je sais pas, si on montre une pomme et puis qu'ils vont nous dire ein Apfel, on va dire ja ein Apfel. Donc on va aussi pour les enfants germanophones, c'est aussi bien qu'ils suivent cette filière bilingue parce qu'ils ont déjà commencé à avoir un peu l'oreille en bon allemand, quoi. Alors voilà, mais. C'est un petit peu comme ça, mais on leur, on, dans les jeux libres ou comme ça, ils peuvent parler en français, en allemand ou en suisse-allemand, quoi.
Anfügen, dass wir bemerkt haben, dass wenn die Kinder nur Schweizerdeutsch haben, also allgemein jetzt auch in Bilsons, im Kindergarten und nachher in die erste Klasse kommen, das war sehr schwierig. Also für viele Kinder war das wirklich das Hochdeutsch eine Fremdsprache dann. Und dieser, das war nachher für das Lesen, das Erlernen vom Lesen und Schreiben, haben wir bemerkt, dass dort einfach der Spracherwerb fehlte vom Hochdeutschen. Und deshalb haben wir das in Biel, allgemein in Kindergärten, fördern wir das Hochdeutsche auch sehr, ohne aber das Schweizerdeutsche zu vergessen, weil das uns wirklich wichtig ist, dass das kulturelle Erbe halt auch erhalten bleibt. Aber wir versuchen das wirklich ganz bewusst einzusetzen.
Voilà, merci beaucoup pour la présentation. On s'excuse tout d'abord d'être arrivé un peu en décalage. On avait une activité HEP en parallèle et on vous a rejoint dès que possible. Donc merci pour la présentation. Moi j'avais une question qui rejoint un petit peu aussi la question posée par Madame Le Pape Racine à propos du politique. On voit effectivement qu'il joue un rôle central au niveau financier évidemment. Et on voit finalement dans les cantons en guillemets monolingue comme Neuchâtel, le politique joue un rôle très fort avec le projet Prima. De votre expérience, qu'est-ce qu'on pourrait, au-delà de la question du financier, mais de votre expérience, quels seraient les arguments qui pourraient définitivement convaincre le politique, y compris dans les cantons bilingues, d'être plus actif?
Oui, je pense que la population a demandé très très fortement qu'il y ait des écoles bilingues et continue à le demander, et je pense que ça n'est pas négligeable. Donc c'est pour ça que la porte n'est pas fermée. On a, on l'a dit, on a à peu près une quarantaine de places à offrir chaque année pour les futurs 1H, et on a trois fois plus de demandes, donc c'est énorme. Vraiment trois fois plus, entre 120 et 130 demandes, et ces personnes sont OK de rester en liste d'attente. Donc voilà, on a un système de liste d'attente. Quand il y a un déménagement hors de bien, on comble les départs par cette liste d'attente. Donc il y a une demande très très forte de la population. Je pense que ça n'est pas négligeable. On est dans un pays démocratique et je pense que ça, il faut utiliser ce levier-là.
Peut-être qu'il faut d'abord montrer plus que ça fonctionne, que ça existe, qu'il y a une demande aussi. Je pense à Bienne, je pense aussi à Berne, où il y a aussi une filière bilingue où la demande dépasse les places disponibles. Mais en même temps, il faut aussi penser à la formation des enseignantes qui sont nécessaires parce que sans le personnel, il n'est pas possible de faire une filière bilingue. Mais je crois qu'il faut s'orienter par rapport à des filières qui marchent. Désormais, au niveau secondaire 2, c'est commun. Je crois que le nombre de gymnases, lycées et collèges qui offrent une filière bilingue sont majoritaires au niveau suisse. Donc là, c'est tout à fait normal, habituel. Et même chose, ça tend à se banaliser dans les formations professionnelles et autres formations du secondaire 2 et aussi au tertiaire. Mais au niveau de la scolarité obligatoire, où l'État a aussi le plus de devoirs, d'offrir quelque chose que d'équitable et aussi de comparable à l'ensemble des élèves. Là, il faut peut-être plus montrer l'exemple et puis montrer aussi que c'est faisable.
Ja, vielen Dank. Ich hätte eine Frage zu den Drittsprachen, aber zuerst eine Bemerkung. Es wird oft gesagt, und einige haben es auch gesagt, dass diese zweisprachigen Klassen elitär sind oder selektiv sind. Aber ich möchte betonen, nichts zu tun ist viel undemokratischer. Denn 6 Monate im Ausland, das kostet 12.000 Franken. Ein Jahr aussetzen in der Schule, das kann nicht, das geht nicht überall in allen Familien. Also nichts zu tun, das ist noch viel undemokratischer und viel selektiver. Mais j'ai une question par rapport au L3. Vous avez aussi brièvement mentionné la langue 3, l'anglais, très souvent, pas toujours, hein, mais on remarque les avantages de l'enseignement bilingue pour des autres langues. Mais une question concrète, puisque Abby Bien s'est stratifié, donc à peu près, même maintenant, un peu plus qu'un tiers d'allophones. Dans des autres filières, on a vu en Valais aussi qu'il y avait beaucoup d'allophones. Est-ce que vos enfants, dans vos filières, ont aussi une curiosité à apprendre d'autres langues? Est-ce qu'ils demandent, mais comment est-ce qu'on dit en espagnol, en arabe? Est-ce qu'il y a, d'autres formes qui surgissent à part le bilinguisme qui est planifié en fait dans ces classes?
Ist da von den Kindern. Also das merkt man von Anfang an, einfach Sprachen, weil die Mitschülerinnen und Schüler natürlich andere Sprachen sprechen, andere Kulturen haben. Die Kinder sind offen für, weil sie ja verschiedene Sprachen schon lernen und möchten noch mehr lernen. Sie versuchen, in verschiedenen Sprachen Merci zu sagen. Also so spielerisch, aber das merkt man den Kindern an. Sie interessieren sich auch, wie ist es bei euch? Sie möchten wissen, wie ist es bei euch zu Hause? Sprecht ihr anders? Also es gibt sehr viele Diskussionen darüber, auch in den Klassen. Und das wird uns wirklich rückgemeldet, dass unsere Kinder diese Offenheit mitbringen, den anderen gegenüber, und diese Neugier auch mehr zu lernen und nicht nur die Sprache, andere Sprachen zu lernen, sondern auch andere Kulturen kennenzulernen. Und das wurde uns von der Philippe Milag-Sogondech, von den Lehrpersonen, die vorher in einer einsprachigen Oberstufe gearbeitet haben, rückgemeldet, dass das extrem auffällig ist bei unseren, dass sie diese Offenheit haben, den anderen Kulturen gegenüber und allen neuen Sachen. Nicht nur sprachlich, sondern auch Mathematik zum Beispiel oder NMG-Themen, also Natur, Mensch, Gesellschaft, dass diese Kinder sich immer wieder Fragen stellen, was sie von den anderen, anderen Klassen nicht so kannten. Also das ist sicher ein Merkmal.
Ja, also wir haben noch Zeit für weitere Fragen, wenn es noch gibt. Welche gibt es? Ja, dort gibt es. Danke, Raphael.
Also vielleicht eine etwas kritische Frage, aber auch zu dieser Selektion, weil das ist etwas, das mich schon ein bisschen stört. Und Sie haben ja gesagt, zum Beginnen kann das gut sein, weil die Chance ist größer, dass es funktioniert, wenn man vielleicht das Projekt beginnt. Aber Sie selektionieren ja trotzdem ein bisschen, so nicht... mega stark, auch wenn man sagt, wir versuchen möglichst nicht zu selektionieren, wenn man sagt, ja, die Unterstützung der Eltern muss da sein oder so. Und meine Frage ist mehr so längerfristig. Ist das Ziel, dass das mal nicht gemacht wird? Oder auch ganz böse gefragt, ist das Ziel, dass man dann immer sagt, wir wollen nicht selektionieren, aber man macht es dann halt trotzdem ein bisschen längerfristig?
Wenn ich da mal beginnen kann, derzeit gibt es halt alle möglichen Selektionsformen. Also es ist nur in wenigen Klassen, die ich jetzt kenne, so, dass alle mitmachen müssen. Also manchmal im Prima-Projekt gibt es Klassen in einzelnen Gemeinden, wo es einfach keine zweite andere Klasse gibt und dann machen halt alle mit. Aber in der Regel kann man jetzt Eltern nicht zwingen und das ist dann schon die einfachste Form von Selektion, dass dann eben Eltern, die Befürchtungen haben oder irgendwelche Gründe, das dann halt abwählen können. Aber normalerweise ist es schon so, dass es die meisten einverstanden sind. Und da hat Prima das schon geändert, weil früher gab es eine aktive Anmeldung und heute quasi eine Möglichkeit der Abwahl. Das ist wahrscheinlich schon besser als jetzt ein aktives Wählen einer zweisprachigen Unterrichts, weil es da halt schon Eltern gibt, die dafür sensibler sind und die das dann auch wünschen für ihre Kinder. Und andere sollten das vielleicht auch wünschen, aber sind vielleicht nicht, haben das nicht auf dem Radar oder haben dann halt Befürchtungen, eben, dass es den Kindern schaden könnte oder was auch immer. Aber die Frage der Selektion, das finde ich schon sehr wichtig, weil es eben manchmal nicht gewollt ist und manchmal nicht so offen. Deswegen sage ich, dass man das bewusst machen sollte und auch offen kommunizieren sollte und dann, wenn möglich, auch anpassen. Eben das, für mich wäre die Idealvorstellung, dass man am Schluss gar nicht mehr fragt, sondern dass es etwas ganz Normales ist, dass nämlich das alle machen, wie ich halt auch die Schule in einer Sprache gemacht habe, die ich nicht jetzt eigentlich gewählt habe, sondern die war dann einfach da. Und in Zukunft, also vielleicht in 50 Jahren, in 100 Jahren, dann macht man halt die Schule in zwei Sprachen, weil das halt allgemein so gemacht wird. Aber ich denke immer noch, dass es wahrscheinlich besser ist, mit den Vor- und Nachteilen von gewissen Selektionsphänomenen anzufangen, um zu zeigen, dass es funktioniert und dass diejenigen, die Befürchtungen haben, diese Befürchtungen auch ausräumen können.
Einfach da, dass wir zu große Nachfrage haben und zu wenig Angebot. Durch das müssen wir selektionieren und deshalb müssen wir auch Kriterien haben von Anfang an. Und sobald man ein Kriterium hat, selektioniert man. Unsere Selektion ist jetzt von der Distanz zum Schulhaus. Wir sind in einem Quartier, das nicht teuer ist. Also wir sind umgezogen. Vorher waren wir in einem anderen Quartier, wo ein bisschen die Wohnungen teurer waren als bisher. Und dort, wo wir jetzt sind, das ist im Zentrum ein normales Quartier. Aber wir merken zum Beispiel auch, jetzt durch das, was wir dort einen Standort haben, bekommen wir Anrufe, wöchentlich würde ich jetzt sagen, von Leuten, die in das Quartier ziehen möchten. Einfach wegen dieser vielen Belege. Also das sieht wirklich Leute an. Und durch das kann das wieder verfälschen, natürlich, das Kriterium. Aber ja, ich denke, wir können es im Moment nicht umgehen, dass wir dort eine Selektion machen. Aber wir versuchen eigentlich, die Selektion so zu machen, dass sie eben wenigstens möglich mit dem kulturellen Hintergrund zu tun hat oder mit Bildungsnähe oder nicht. Und die Eltern müssen nicht interessiert sein, die Sprachen zu erlernen. Das ist kein Kriterium. Das ist einfach sehr erwünschenswert. Und wir haben einfach bemerkt, bei den Kindern, wo das nicht der Fall ist, das ist viel schwieriger für die Kinder, nachher die Sprache zu erlernen. Wenn die Eltern kein Interesse haben für die anderen Sprachen, dann werden die Kinder dann auch mehr Schwierigkeiten haben. Das ist mehr eine Empfehlung an die Eltern, dass sie mitmachen. Aber es ist kein Kriterium.
Peut-être justement qu'ils vont mettre la croix parce qu'ils espèrent le meilleur pour leur enfant et du coup et puis finalement ne s'intéressent pas ou ne veulent pas entrer dans la langue dans une filière monolingue auront aussi peut-être un recul par rapport à l'école. Je dirais pour prendre la question à l'inverse, c'est qu'on a beaucoup de demandes et puis parfois on a aussi des demandes de sortie, on n'en a pas parlé. Et puis si on arrivait dans le modèle que vous préconisez justement tout à l'heure, finalement si on était dans toute la Suisse, on avait des écoles bilingues de manière généralisée, on n'aurait pas ce problème. Pour l'instant, on est encore dans ce problème. C'est qu'on a beaucoup de parents qui désirent cette filière bilingue. Puis quand on arrive dans le cycle 2, donc quand on est à l'écrit, quand on se prépare à aller au cycle 3, on a des questions de parents qui, tout d'un coup, se disent « Ouh là là, le niveau, comment ça va être ?» Et puis, finalement, il y a aussi des critères de sortie. Mais ils sont très difficiles, hein, parce qu'on dit « Mais il faut que l'enfant soit bien, donc il faut passer vers un service psychologique pour l'attester. » Et finalement,
permettez-moi l'expression, on se refile la patate chaude. C'est que l'école va peut-être se positionner où il y a une demande de parents qui va dire « mais mon enfant, il n'est pas bien dans les deux langues, donc il faut qu'il retourne en monolingue ». Et puis parfois, cette situation, du moment qu'on a des filières bilingues optionnelles, on arrive à ce genre de situation où parfois on a des demandes de parents qui souhaitent sortir un enfant pour X raisons. Et ça met vraiment l'enfant dans une position difficile. Et voilà. Donc, alors, parfois, ça, on va jusqu'au bout, parfois pas, mais c'est quand même assez difficile à gérer, je dirais, cette question-là. Même si nous, derrière, on a peut-être des listes d'attente, mais c'est parce qu'on veut. C'est justement, on ne veut pas une école élitaire avec des élèves avec difficultés qui quittent parce que, soi-disant, c'est la faute à la deuxième langue, et, alors que dans une filière monolingue, il y aurait peut-être eu aussi les mêmes soucis scolaires. D'apprentissage.
Ganz wichtig, dass wir Kinder, die also Integrationsprojekte bei uns haben, zum Beispiel Pool 1 und Pool 2 heißen sie für uns im Kanton Bern im Moment noch. Also das heißt, wir haben auch Kinder, die Lernschwierigkeiten haben zum Beispiel. Wir haben auch Kinder, die integrativ geschult werden bei uns. Das ist uns wichtig. Wir haben auch körperlich behinderte Kinder. Also dass wir wirklich dort wie eine normale Schule sind und eben um zu zeigen, gerade dass die Schule für alle gemacht ist, so eine zweisprachige Schule.
Gut. Ja, ich glaube, dass wir jetzt ist die, ja, uns läuft die Zeit davon jetzt und ich glaube, wir haben schon sehr interessante Sachen hören können. Ich möchte mich herzlich bei allen bedanken.